Bonjour tout le monde et bienvenue à l'émission d'après-course du bulletin GP dans le cadre du Grand Prix d'Australie. Mon nom est Abdou Sal, j'espère que vous vous portez bien. Pour parler de cette troisième course de la saison en Australie, j'accueille Jean-Sébastien Barbeau. Salut Jean-Sébastien.
Salut Abdou, comment ça va?
Ça va bien. Est-ce qu'on parle de l'éléphant dans la pièce tout de suite?
Ah bah oui, allons-y. Hein.
On enregistre cette course les 10h du matin, heure du Québec. On enregistre la course. Moi, je viens de me lever.
7h après. On enregistre le balado 7h après le Grand Prix.
Exactement. Donc, évidemment, on a eu le temps de se rafraîchir un peu la mémoire avant de venir. Donc, j'espère ne pas avoir perdu des bouts, surtout.
ce sera un petit peu difficile. Il faut dire qu'il n'y a pas nécessairement beaucoup de bouts à retenir de ce Grand Prix. Je pense que c'est un Grand Prix plus standard, déjà. Malgré quelques histoires un peu rocambolesques.
Ouais. Donc, un Grand Prix d'Australie normal, si on peut dire.
Un bon Grand Prix.
Ouais, c'était un bon Grand Prix, je dois dire. C'était plus relevé que ce qu'on s'attendait, en fait, de base avec le Grand Prix d'Australie dans le passé. Je vais vous donner tout de suite les résultats de la course. Donc, c'est une deuxième victoire cette saison pour Charles Leclerc sur la Ferrari. Sergio Perez sur la Red Bull termine deuxième. George Russell obtient son premier podium avec Mercedes et c'est son deuxième podium en carrière. Est-ce qu'on peut dire son premier vrai podium? Lewis Hamilton, quatrième. Lando Norris et Daniel Ricciardo, cinquième et sixième. Un bon résultat pour McLaren. Esteban Ocon, septième. Valtteri Bottas, huitième. Pierre Gasly, neuvième. Et Alex Albon, dans une Williams, termine dixième. On a perdu trois voitures. Carlos Sainz. Sébastien Vettel, et surtout, Max Verstappen. Aïe, on a beaucoup de choses à dire à propos de Max Verstappen. Ouais, c'était pas fameux en tout cas. Jean-Sébastien, on va y aller tout de suite avec nos évaluations post-Grand Prix. Donc, quelle est ta performance, contre-performance et moment cocasse de ce Grand Prix?
Alors, le pilote du jour, Abdou, je vais te laisser pouvoir en parler dans un instant. Je sais que toi, ce sera Charles Leclerc. Moi, je vais le donner à Alexander Albon. Stratégie plus qu'osée de s'arrêter. À jouer sur les voitures de sécurité, à jouer sur à peu près tout ce qui pouvait lui tomber sous la main pour pouvoir retirer ses pneus du temps. Je pensais pas que ça allait payer à la fin. Je voyais les temps, je me disais, il va finir 11e ou 12e, il va être à l'extérieur des points. Puis finalement, non, il était très très chanceux et on l'a vu après la course, même un Lando Norris est resté très étonné. Il pensait qu'il blaguait lorsqu'il lui a dit non, j'étais dixième, je voulais légitimement dixième, puis je me suis arrêté à la fin, puis voilà, donc je suis rentré dans les points. Mais comme Lando Norris disait, t'aurais juste dû finir la course, puis finir sixième, puis voir qu'est-ce qui aurait pu arriver comme pénalité. Évidemment, il aurait été disqualifié, mais prouve que ses pneus durs sont très résistants quand même. On s'attendait à ce que ces pneus soient un peu plus difficiles à user au cours de la saison à cause de la nouvelle configuration. Finalement, ils semblent être assez bien performants. Donc, tant mieux pour Williams qui marque un point. Ils sont la 9e équipe à marquer un point parce que la dernière équipe n'a toujours pas avoir marqué de points. Et ça va faire ma transition. C'est la contre-performance du jour. C'est Aston Martin. Le week-end catastrophique qui a commencé vendredi avec le bruit de moteur pour Sébastien Vettel qui a fait Fireman Seb, donc qui a fait le pompier Sébastien Vettel pour éteindre le feu. Le samedi, l'accident entre Nicolas Latifi et Lance Stroll qui a fait la faute. Bien que je pense qu'il y a une partie de la responsabilité aussi qui revient à Nicolas Latifi qui a mal jaugé la question du trafic. Mais ça, c'est autre chose. Puis le dimanche, encore une fois, la pénalité pour Lance Stroll pour weaving, pour avoir bougé. Personnellement, je pense que c'est peut-être un peu sévère parce qu'il y a des éléments que je trouve qu'on voit plus souvent dans les Grands Prix qui méritent une pénalité plus forte que ça, mais n'empêche, ça fait une autre pénalité, donc deux pénalités en un week-end. Puis en plus, la perte de contrôle de Sébastien Vettel, qui l'a, comme on dit en anglais, qui l'a binné himself, qui a perdu tout simplement le contrôle. Dans un virage où on ne perd pas le contrôle, le virage numéro 4, c'est un virage plutôt à basse vitesse. Ce qui prouve que cette voiture-là est très nerveuse et difficile à conduire. Puis Sébastien Vettel est sans doute pas au point parce qu'il a manqué les deux premiers Grands Prix de la saison. Donc, le rythme de course, il ne l'a pas, visiblement. Donc, un week-end catastrophique pour Aston Martin. Mais cette saison-là, ça va être une saison de misère. L'année passée, on disait que c'était une saison difficile. Cette année, ça va être pire encore. Mais ça va être une catastrophe pour Aston Martin. Tu nous l'as dit en privé, Abdou, pendant le Grand Prix avec notre ami Pierre Maillot. Aston Martin, c'est les Toyota 2020. C'est littéralement ça. C'est les Toyota 2020. Ça va être difficile. Et moi, comme j'ai dit, je vous ai dit après, que Audi ou Porsche rachète cette équipe-là au PC pour en finir, parce que ça va être difficile, ça va être long. Ça va ternir la marque d'Aston Martin. Il n'y a rien de positif là-dedans. Et finalement, le moment cocasse, c'est pas tant un moment cocasse, c'est plutôt un moment, j'ai l'air d'un foin. C'est en la personne des deux commissaires sur le bord de la piste lors de l'abandon de Max Verstappen. La voiture est en feu, on voit la fumée. Les deux commissaires tiennent leur boyau d'incendie, font rien. Verstappen pointe en disant « il y a un feu, allez l'éteindre », font rien. Pointe une deuxième fois avec beaucoup d'insistance, décide d'y aller. On s'attend à beaucoup mieux de la part des commissaires australiens, surtout qu'ils connaissent très bien leur course automobile. C'est une voiture qui est en feu, on s'entend qu'ils ont un seul job à faire, ils tiennent le boyau d'incendie, ils le font pas. Donc ouais, j'ai l'air d'un foin, les deux commissaires de course.
Ouais, en effet. Ouais. Et surtout aussi, ajouter à ça aussi la petite chute du commissaire lors de la...
De la FP2.
Exactement. Il a trébuché, en fait. Je pense que c'était dans l'herbe ou dans le gravier, mais... c'était un petit peu drôle, mais pour vrai, j'avais pas remarqué les deux commissaires qui ont pris du temps pour éteindre le feu de Max Verstappen. Ouais, peut-être que... Peut-être que ça, ils ont pas vu tout de suite le feu, puis ils ont pris.
Bon, on voyait la fumée quand même.
Ouais,
ils auraient pu faire un pas de plus pour aller voir aussi qu'est-ce qui se passait derrière la voiture. Ils l'ont pas fait, ils sont restés à leur place.
Ouais.
C'était ordinaire.
Ouais, en effet, je suis d'accord avec toi. Bon, moi, comme tu l'as dit, ma performance du jour revient à Charles Leclerc, domination complète. On va reparler tout de suite après. Sinon, mention honorable à Sergio Perez, qui a fait une bonne course et qui a vraiment été, comment je dirais, à son affaire. Oui, à son affaire. De beaux dépassements face aux deux Mercedes. Et
oui, des dépassements légitimes qu'il devait absolument faire pour pouvoir finir en bonne position.
Parce que oui, les Mercedes avaient un rythme, mais Sergio Perez était... vraiment en feu, et surtout son dépassement sur Lewis Hamilton dans la nouvelle configuration qui remplaçait l'ancienne chicane LED. Vraiment, c'était magnifique à voir. Alors, oui, Sergio Perez a fait le travail. Oui, certes, deuxième parce que son coéquipier a abandonné, mais il méritait le podium de toute façon. Deuxième, c'est un bonus. Oui, mention honorable aussi à Alex Albon. On va en reparler justement du pilote Williams. Je ne vais pas m'en cacher, contre-performance Aston Martin, mais je veux dire aussi malchance Alpine, plus pour Fernando Alonso aussi. Là, c'est triste pour lui, en fait, surtout avec son accident. Accident causé par un problème hydraulique en qualification où il aurait pu... partir dans le top 4 même et fini bon dernier en fait parce qu'il a été obligé de s'arrêter deux fois.
Mais le rythme de course n'était pas totalement là non plus. Le rythme de qualification était vraiment là. On l'a vu. La deuxième ligne était pas tant. Il y avait une réelle possibilité. Le rythme de course, lui, par contre, il était en dessous de ce qu'on s'attendait.
Ouais, effectivement. Donc, il y a quelque chose à voir parce que. Alonso pouvait marquer des points, mais au moins aucun n'a fait le travail. Course tranquille, mais au moins rapporte des points à l'écurie française. Et le moment cocasse, c'est Sébastien Vettel dans son scooter. Oui, c'était vraiment drôle à voir au moins. Je suis d'accord avec la FIA pour la pénalité de de 5 000 euros parce que c'est une question de sécurité, qu'on le veuille ou non. Parce que oui, je comprends qu'il y avait des. Je comprends qu'il n'y avait personne sur la piste, mais normalement, je pense que s'il voulait conduire, il aurait pu au moins rester dans la zone pour justement ne pas aller en piste. Bon, c'était beau à voir, mais l'amende est totalement justifiée. Bon, qu'est-ce qu'on fait avec qu'est-ce que la FIA fait avec l'argent, c'est une autre chose aussi. C'est une question tout aussi valide. Donc, oui, c'est un moment cocasse pour de cette fin de semaine en général. Ah oui, puis aussi Alfa Romeo qui tweet The Clashing Canadians. Ça semble être un bon nom de band.
Donc, c'est vrai.
C'est vrai, c'est un bon. Ça donne un bon nom de band, ça avec Rush aussi. Donc,
Les cocombes canadiens aussi, mais bon, ça c'est plutôt ironique.
Ah ouais, ouf, ouais, ça aussi. ouch. Ouais. Aïe, aïe, aïe. On va parler de Charles Leclerc, totalement dominant. Il termine avec 20 secondes d'avance sur Sergio Perez. Jamais inquiété. Bon, OK, pas jamais.
Deuxième relance, Verstappen s'est essayé. Ça aurait pu marcher, mais ça manquait de rythme.
Exactement. Mais vraiment, je dois dire, Charles Leclerc, chapeau. Et puis, ses victoires, je pense, ces quatre victoires ont été remportées de la pole position.
Exact. Il ne s'est gagné que de la pole.
Et deux d'entre elles, ce sont des. Et deux d'entre elles, c'est où il a été carrément devant avec le. Il a réussi à s'enfuir. Évidemment, sa première victoire en Belgique 2019 et sa quatrième aussi. Vraiment, je dois dire, Charles Leclerc est en train de prouver qu'il a présentement ce qu'il faut pour être champion du monde. Il a la constance. Il a la confiance aussi. Maintenant, c'est de voir sur une saison aussi longue que celle-là, est-ce que ça va continuer? Mais en tout cas, aujourd'hui, on a vu des moments où Leclerc a été capable de nous prouver qu'il a la couenne d'un champion.
Il semble l'avoir, en effet. Je ne sais pas si c'est un champion du monde à la Lewis Hamilton qui va se construire ou à des multiples champions du monde, ou c'est davantage un Jenson Button dans la mesure où cette voiture est très dominante. Charles Leclerc l'a reconnu après la course. C'est pas tant lui, c'est davantage la voiture qui fait la performance. Si on mettait un Lewis Hamilton dans cette voiture, je pense que Charles Leclerc se ferait sans doute détruire. Mais bon, ça, c'est un autre débat. Super course de sa part, colle 20 secondes à Perez qui finit deuxième, donc le premier des perdants, qui colle un tour rapidement à plusieurs voitures après la dernière relance autour du 30e tour, donc engrange un super temps. Il sera difficile sans doute à battre cette saison, mais du moment que des Mercedes, que des Red Bull règlent leurs problèmes, ça va devenir beaucoup plus compliqué pour Charles Leclerc. Comme tu as dit, Abdou, le championnat il est extrêmement long. Il reste 20 courses encore au championnat. Il y a certaines années où il n'y en avait même pas 20, donc imaginez comment ça peut être difficile. L'avance qu'il détient sur le deuxième pilote au championnat des pilotes est de mémoire, 44 points. J'ai le classement ici. C'est 34 ou 44, enfin bref. Non, c'est 44. C'est 44 points d'avance. La personne, c'est George Russell.
Ouais.
Celui qu'on ne s'attendait pas au classement général, en fait. Par rapport à Max Verstappen, qui semble être le pilote qui pourrait lui faire le plus de dommages au championnat, qui semble être le rival le plus présent, il est à 25 contre plus de 70, donc il y a un écart gargantuesque. Évidemment, il reste quand même 20 courses. Ces deux victoires face à deux abandons, ça se rattrape facilement, mais ça va être difficile. Il va falloir corriger très vite les situations pour les autres équipes parce que Ferrari va partir rapidement, mais si les équipes arrivent à copier ce qui fait en sorte que l'appareil marche bien. Niveau aérodynamisme, le moteur, on met ça en parenthèse pour le moment parce qu'on ne peut pas vraiment le voir. Ça va être peut-être être plus difficile. Ça sera sans doute un championnat comme Brown GP l'a eu en 2009, où une forte domination en début de saison et ensuite se font rattraper.
Oui, puis je dirais même, est-ce que je pourrais même mettre à la limite 2010-2012 aussi, si on parle de Ferrari, parce que Ferrari avait un très bon début de saison. Mm. Bon. Et ensuite, Red Bull a été capable de rattraper le terrain jusqu'à gagner le championnat. Et je parle surtout pour 2012, parce que oubliez Brésil 2012, mais Vettel, dans la deuxième partie de la saison, enchaîner les gros points et les victoires aussi, alors que Ferrari régressait malheureusement, malgré les performances remarquables de Fernando Alonso. Donc, je crois que pour Ferrari, le but, c'est de rester constant tout au long de la saison et d'éviter aussi de voir Red Bull ou bien peut-être même Mercedes, si c'est le cas, de revenir dans la course au titre. Parce que, et comme tu l'as dit, on l'a vu en 2009 avec Brown, Button a remporté 6 des 7 premières courses et ensuite ça a été le... Ben, pas le calme plat.
Il y a eu un passage à vide.
Il y a eu un énorme passage à vide et heureusement que Vettel était un peu brouillon aussi dans ses courses à ce moment-là parce que Button s'est quand même permis de remporter le championnat à l'avant-dernière course de la saison. Donc, pour ce qui est de Charles Leclerc, je crois que de ses 4 victoires, on l'a vu un pilote confiant. Puis même ça, quand il disait « Est-ce qu'on peut aller pour le meilleur tour? »
Non, il n'y avait pas besoin. Il n'y avait pas besoin. Puis on le comprend. Il voulait donner le... à la suite du championnat, mais l'équipe lui a bien mentionné qu'il n'y avait pas besoin. Eux voient bien ce qui se passe, il y a 20 secondes d'avance, on veut essayer de préserver le moteur, la saison est longue, il y en a juste 3. Il y a des équipes qui sont déjà dans le trouble, je pense à Alonso, il est sérieusement dans le trouble lui déjà pour la suite de la saison. Chez Aston Martin aussi, je pense qu'il commence déjà à y avoir des soucis. Donc, il faut essayer de préserver le moteur, surtout en début de saison, il faut juste aller chercher les points, s'assurer de les marquer, surtout que le week-end prochain, il y a aussi une F1 sprint, donc il y a davantage de points à aller chercher. Il y en a 34 au maximum, parce que c'est 8 plus 26, 25 plus 1, donc ça fait 34. Donc il y a beaucoup plus de points à aller chercher le week-end prochain. Donc il faut assurer ces points-là tout de suite avant qu'il soit trop tard. Parce qu'après, on peut jouer un petit peu plus défense ou on peut jouer un petit peu plus sécuritaire.
En effet, oui, tu as complètement raison sur ce point. Parce que oui, et en plus, bon, c'est vrai que c'est la troisième course de la saison, en plus, donc il ne faut pas tenter le tout pour le tout, il faut y aller safe. Mais je dois dire quand même que, bon, ça montre qu'il est quand même confiant. Peut-être s'il avait dit ça à, je sais pas, un peu plus tard dans la saison, là où ça commence vraiment à être crunch, si on revient dans le scénario, par exemple, de 2009 ou 2012, là, ça aurait été complètement compréhensif.
Oui, mais je pense que l'équipe l'aurait autorisé. Mais là, en début de saison comme ça, non, il faut aller chercher une constance, il faut aller chercher les points. L'équipe sentait que ça servait à rien d'aller chercher un meilleur temps parce que, en voyant les performances des autres. Donc, à partir de là, ils ont dit exactement ce que Charles Leclerc devait entendre. Puis à partir de là, il a compris. Mais on a vu qu'il hésitait quand même. Avec son OK, but, OK.
Et voilà. Et voilà. Donc, c'était exactement la réponse de Charles Leclerc suite à cela. Mais au moins... C'est une bonne chose que Ferrari ait décidé de calmer le jeu. Et en plus de ça, ben, c'est son premier grand chelem en carrière et le premier grand chelem de Ferrari depuis Singapour 2010, lorsque Fernando Alonso a résisté à Sébastien Vettel durant toute la course. Donc, c'est un premier grand chelem pour Leclerc et un premier grand chelem pour Ferrari depuis Singapour 2010. Et en plus, Leclerc mène le championnat avec la plus grosse avance qu'on n'a pas vue en 2021 en plus. Alors, ça prouve à quel point ça va faire la transition vers le... les deux abandons de Max Verstappen en trois courses commencent à coûter cher. Et là, on parle justement de l'abandon de Verstappen. J'ai entendu avant de me coucher Christian Horner dire que, selon ses hypothèses, ce serait quelque chose en lien avec l'essence.
Oui, c'est une autre pièce de la pompe à moteur, de la pompe à essence qui a causé problème. Donc, c'est similaire, mais en même temps, c'est différent. Donc, ils vont pour l'investiguer. Ils ont le temps. Visiblement, ils ont trouvé rapidement le problème sur le premier abandon. Donc, je pense, j'ai bon espoir qu'ils trouvent le problème sur ce deuxième abandon.
Oui, exactement. Et ça va faire vraiment, mais vraiment mal à Red Bull dans le sens où... dans le sens où, justement, ces deux abandons risquent de faire mal, hein, en fait. Surtout dans un championnat, si jamais Red Bull devait que Verstappen risque de se mordre les doigts avec les... Et Red Bull, surtout, risque de se mordre les doigts, en fait. Et justement, Verstappen a dit à son après son abandon, je ne pense même pas à propos du championnat. Je veux juste finir les courses. C'est pas mal frustrant et inacceptable. Ouais, je suis d'accord avec lui. Je pense que c'est évidemment oui, il faut quand même qu'il passe au championnat, mais dans la situation où justement. Non seulement, on ne sait pas, je vais lancer ça. Si jamais si c'était quelque chose en lien avec le moteur, ce ne serait même pas, ça risque de faire mal aussi, parce qu'on l'a vu, Yuki Tsunoda n'a même pas commencé la course à Jeddah, justement à cause d'un problème de moteur. On a vu Pierre Gasly avec un problème de ERS aussi. Ça risque de faire mal pour les Red Bull Powertrains, les moteurs Honda techniquement là. Donc,
mais tant qu'à choisir un problème et à abandonner, la pompe à essence est quand même moins pénalisante que le moteur ou une composante. Du moteur, que ce soit la récupération d'énergie, le turbo, etc. Parce que ça n'implique pas des pénalités.
Oui, effectivement.
Parce que c'est un peu la double peine. Si ton moteur casse, il faut le changer, il y a une pénalité plus loin en saison, il faut partir plus loin, il faut remonter. Leclerc, lui, il a pas ces problèmes-là. Donc, tant qu'à choisir le problème, ça reste quand même beaucoup moins pénalisant. Oui, c'est frustrant, oui, c'est inacceptable. Max Verstappen a complètement raison de s'insurger contre ce problème-là. Ils vont trouver le problème. Ils l'ont déjà trouvé une première fois, mais il y a un contrôle des qualités qui doit être beaucoup plus précis chez Milton Keynes, et ils ont intérêt à que ça soit beaucoup plus efficace, parce que sinon ils vont pas se rendre à la fin de la saison champion du monde.
Ouais, et puis surtout si Ferrari a la meilleure, non seulement a la meilleure voiture, mais elle est rapide et elle est fiable. Red Bull va en mordre les doigts, et surtout aussi si Mercedes devait régler leurs problèmes qu'ils ont actuellement, ça risque encore d'être comme on dit en anglais un double whammy.
En effet, c'est la double peine,
c'est ça, parce que Verstappen a, si on revient dans la course, Verstappen à part la deuxième relance, n'a jamais été capable de suivre le rythme de la Ferrari.
Non, le pneu avant gauche était fini. Verstappen nous l'avait dit à la radio. Mm-hmm. Et on voyait les temps. Et du moment que le pneu avant gauche a arrêté de fonctionner, on l'a vu, il est passé de 3 secondes et demie, 4 secondes à plus de 9 secondes en l'espace de 3 tours. C'est une voiture qui a l'air de manger ses pneus, qui a un grip aérodynamique peut-être trop fort. Il faut trouver un entre-deux beaucoup plus proche de ce que Ferrari fait, visiblement, parce que c'est la voiture à suivre. Mais à partir de là, c'est un petit peu plus difficile.
Oui, parce que vraiment... et en plus, Verstappen a tenté de dépasser tout de suite Charles Leclerc avec des pneus durs qui avait déjà 4 tours d'usure de plus que ceux de Leclerc. Donc, à la longue, si Verstappen avait réussi à dépasser Leclerc, ce dernier l'aurait rattrapé aussi parce que Verstappen aurait été en mode économie de pneus. Parce que ça commençait à se désagréger. Oui, je sais qu'il y a eu Alex Albon puis Lance Stroll aussi. On en reparlera aussi de Stroll. Mais je pense que Ferrari a été capable de mieux gérer ses pneus. C'est ce qui a vraiment, scellé l'issue de cette course, même si Verstappen n'abandonnait pas.
Dernière chose sur les pneus de Verstappen, mentionnons que l'overcut de Lewis Hamilton à l'arrêt au puits a fonctionné.
Oui.
C'est très étonnant, ça.
Exactement.
Mais il faut dire aussi que le pneu dur, c'était pas en séquence, parce qu'on avait C2, C3 et C5, donc on n'avait pas C4 ce week-end. Donc le C5 était le pneu le plus dur. Donc ça explique en partie l'overcut, mais quand même, le overcut a fonctionné, c'est très rare en Formule 1. C'est dire comment les pneus étaient difficiles chez... Et comment sans doute les pneus étaient juste bons aussi chez Mercedes et comment Lewis Hamilton était ralenti par rapport à Max Verstappen.
Oui, effectivement. Cependant, pour continuer là-dessus, Hamilton, par contre, comme au Grand Prix de Bahreïn, a eu du mal à chauffer ses pneus durs à la sortie. Mm. Évidemment, avec les nouvelles règles concernant le réchauffement des pneus, quand même, l'overcut a fonctionné chez Mercedes, alors ça aurait pu mal tourner pour Sergio Perez aussi, mais je crois que ce dernier l'aurait de toute façon rattrapé. On va parler de Carlos Sainz. Quel week-end difficile pour lui.
Week-end très difficile pour lui, la qualification qui s'est pas super bien. Qui s'est qualifié 8e, 9e, dans ces eaux-là, 7e.
9e, oui.
Et donc a connu un départ exécrable, très très lent, pas de grip, pas de rythme, et a fauté finalement pour tout simplement avoir un accident et mettre la voiture dans les gravois, dans le gravier et ne plus pouvoir repartir. Course complètement oubliée pour Carlos Sainz. Et ce qui est intéressant de souligner en même temps, pour pas juste pour Carlos Sainz, mais pour l'ensemble des pilotes, on a vu que le circuit, il est sans merci pour les pilotes, parce que du moment qu'on fait une faute, la punition se paye cash. On l'a vu avec Sébastien Vettel qui est parti tout de suite dans le mur. On l'a vu un peu au même endroit que Carlos Sainz avec Kevin Magnussen, qui aurait pu très bien perdre la voiture, ça aurait pu très bien mal finir. Donc partir à la faute peut se payer très cher à Melbourne. Et ça, c'était réjouissant à voir par rapport à des circuits comme Bahreïn ou Abu Dhabi ou... Il n'y a pas vraiment de faute si on fait du hors-piste. Parce qu'il y a quand même de la piste.
Oui. Oui, surtout que le gravier à Melbourne est beaucoup plus...
Il est épais.
Il est épais. Donc, une fois que tu te retrouves dedans, c'est terminé. Et puis, je dois dire quand même... aussi, je comprends l'idée de Ferrari de vouloir lancer un Hail Mary avec Sainz, avec les pneus durs, mais au départ, ça n'a pas été fameux. Donc, Carlos Sainz s'est plutôt raté, en quelque sorte, sur une stratégie qui peut-être aurait pu fonctionner, sachant qu'il est capable de... Il est capable de bien gérer les pneus en plus. Donc, ça, c'est quelque chose qui fait mal pour l'Espagnol, mais c'est à revoir parce que, évidemment, si son tour, son premier tour lancé en Q3 avait compté sans le drapeau rouge, je pense qu'il aurait été définitivement 4-5e, dans le top 5. Facilement, et peut-être il aurait été en mesure d'avoir la stratégie optimale, celle d'un arrêt médium dur. Donc, ça a coûté vraiment cher. Non seulement le tour non valide, son premier tour non valide, ses problèmes aussi sur son deuxième tour et son mauvais départ aussi, qui a coûté énormément cher. Donc, vraiment, je crois que Vivement Imola à la maison pour Ferrari. Au moins, c'est une bonne nouvelle. Ils arrivent en menant le championnat. On va parler de son ancienne écurie, McLaren. Quand même, cinquième et sixième. Donc, finalement, c'était juste... On est en train de dire que le Grand Prix de Bahreïn, pour l'instant, c'était juste une très mauvaise course et non pas un très mauvais début de saison?
Oui, visiblement, ça semble être le cas, à moins que Melbourne soit l'exception à la règle. On verra dans deux semaines à quoi ça pourrait ressembler, parce que sur certains réglages, on peut quand même réappliquer ce qu'on a eu à Melbourne du côté de Imola, jusqu'à un certain point quand même, mais... C'est réjouissant de voir les McLaren de retour vers l'avant-scène, surtout pour Daniel Ricciardo chez lui avec une sixième place. C'est très bien de sa part. Course un peu dans l'ombre, je trouve, pour les McLaren. On les a peu vus, à part quelques fois, mais je regarde dans mes notes, j'ai rien à propos d'eux, en fait. C'est une course un peu anonyme. Tant mieux, tant pis, j'ai un petit peu de mal à me placer, j'ai envie de dire plutôt tant mieux, parce qu'il marque des points, il marque 18 points quand même, 10 et 8, donc c'est une très bonne performance, c'est quand même 18 points de plus que Max Verstappen, dans l'absolu, et c'est le même nombre de points qu'a marqué Sergio Perez, donc à partir de là, oui, carton plein pour McLaren, il ne pouvait pas faire mieux devant ses Mercedes, ses Red Bull, ses Ferrari, donc ils ne peuvent pas faire plus, et en condition normale, c'est une équipe qui serait 7e, 8e, donc la 4e équipe sur la grille, donc aller chercher des places de plus, aller chercher des points de plus, c'est une super performance pour l'équipe qui a connu un début de saison en dents de scie.
Ouais, parce que quand même, à Jeddah, Norris a marqué, je pense, c'était une sixième place. Daniel Ricciardo, c'était un abandon mécanique, mais je crois qu'il pouvait aller chercher une neuvième, dixième place au mieux. Donc, je suis en train de me dire, ouais, Bahreïn, c'était juste pour l'instant une mauvaise course, mais comme tu l'as dit, je crois que évidemment c'était des réglages différents. Ils étaient un peu en lutte aussi avec Mercedes dans le premier tiers de la course aussi, mais pardon, sans plus. Mais je dois dire, c'est un résultat vraiment à prendre pour l'équipe de Zak Brown, qui est présentement à Long Beach, mais je crois qu'il a apprécié sa course de la Californie. Je dois dire quand même, Norris, Ricciardo ont juste fait le travail qu'il fallait. Certes, je crois que... On va voir à Imola si on peut vraiment dire qu'ils se sont ressaisis. Et ça peut donner un peu des sueurs froides à Mercedes si le statu quo de ces derniers devait rester. Donc, vraiment, je suis vraiment content des McLaren en fin de semaine. Et Lando Norris a été tout simplement remarquable, surtout la troisième séance d'essai, qui n'est pas la séance la plus pertinente des trois séances d'essai, finit premier, et là, transforme cette première place en quatrième place en qualification, ce qui est superbe. Et Daniel Ricciardo qui offre quand même un beau cadeau de retour aux partisans. D'ailleurs, ont brisé le record d'assistance en Formule 1, qui est de 420 000 spectateurs sur l'ensemble des 4 jours du Grand Prix d'Australie. 4 incluant le jeudi, parce qu'il y avait déjà des courses, mais c'est quand même remarquable à voir que la Formule 1 a un regain de popularité et que Daniel Ricciardo, évidemment, soit un vecteur de cette popularité, surtout après quoi 2-3 ans d'absence en Australie. Donc
parce qu'on comptera pas le jeudi et le vendredi matin catastrophique de mars 2020, qui était le 12 et 13 mars 2020.
Ouais, ça c'est
le jour où le monde s'est fermé.
Exactement. Je ne vais plus jamais revivre ce scénario. on va parler de Mercedes. George Russell et Lewis Hamilton, troisième et quatrième. définitivement leur meilleure course de la saison. Beaucoup plus de rythme que ce qu'on a vu dans, dans les deux premières courses. George Russell est, qui s'offre un podium. Évidemment, il a été aidé par la voiture de sécurité. Merci à Sébastien Vettel, entre autres. Mais, et Lewis Hamilton aussi, bon, quatrième, mais si ce n'était pas de la voiture de sécurité, je crois qu'il aurait, il aurait redépassé Sergio Perez, d'après moi. Parce qu'on le voyait,
les deux... Oui, oui. Il y a des chances, il y a des bonnes chances. Donc, George Russell qui a su profiter un peu des abandons, donc qui a pu remonter mécaniquement le classement de la course, qui a pu profiter aussi de la voiture de sécurité suite à l'accident de Sébastien Vettel, s'en sort très bien, une troisième place, c'est un très bon résultat pour lui. On a vu sur Internet des gens dire « Bon, quand est-ce que le message va venir pour qu'il y ait un switch entre lui et Lewis Hamilton? » Visiblement, c'est jamais venu. Je sais que, sans doute, Abdou, toi, tu as plus d'informations. J'ai vu vite ce matin, au réveil, Lewis Hamilton expliquer un commentaire un peu mystique qu'il a dit, qu'on a entendu à la télévision lorsqu'il parlait à la radio en fin de course, qui s'étonnait sur quelque chose de sa voiture, sauf erreur. Tu me sortiras cette information-là. Je pense que c'est un sujet à parler qui pourrait être... faire peut-être un brin de controverse chez certains, mais enfin, ça relève davantage sans doute juste du hasard ou enfin de quelque chose, mais très bonne performance des Mercedes en fin de semaine, un bon rythme de course, aurait pu dépasser les Red Bull avec un peu plus de chance si Verstappen avait pu finir la course. Peut-être que Russell aurait peut-être pu aussi aller le rejoindre. Donc, il y avait une vraie possibilité de pouvoir faire un bon résultat. Ils font quand même assez bien, troisième, quatrième. On peut pas vraiment leur demander plus. Surtout pour Russell, c'est lui qui est deuxième au championnat des pilotes, rappelons-le.
Oui.
Il est le dauphin de Charles Leclerc au classement général, aussi improbable que ça puisse paraître.
En effet, ça c'est quand même quelque chose que, si on m'avait dit en début de saison que Russell serait deuxième après trois courses, j'aurais dit ben bullshit, mais ça n'a pas l'air de.
Oui, parce qu'on aurait dit Verstappen, on aurait dit Perez, on aurait dit Carlos Sainz, on aurait dit Lewis Hamilton.
Oui, carrément, mais George Russell deuxième, évidemment, c'est quoi? C'est deux cinquièmes places et un podium, donc vraiment un très bon.
À 44 points du leader aussi.
Oh oui, exactement. Donc, c'est quand même un très bon résultat pour Russell et qui commence à bien s'adapter avec la Mercedes jusqu'à présent. Donc, j'ai vraiment aimé ce qu'il a dit. Évidemment, je suis en train de chercher en ce moment. Les propos de Lewis Hamilton, effectivement, c'est ce qu'on a entendu à la radio qui dit « Vous m'avez vraiment mis dans une situation difficile. » Oui et non. Moi, je pense que Russell a juste profité de la voiture. C'est comme Verstappen dans ce Grand Prix d'Abu Dhabi. Il était au bon endroit au bon moment pour effectuer son arrêt au puits gratuit. Donc... C'était bien.
Mais après la course, et j'ai l'article devant moi, Lewis Hamilton dit non, c'est parce que la voiture surchauffait. Donc, il se trouvait dans une position un peu plus difficile. Est-ce qu'elle surchauffait vraiment? Je suis pas tout à fait certain que la voiture surchauffait. Oui, derrière son coéquipier, c'est sûr que ça provoque de la chaleur, mais bon.
Honnêtement, si je me souviens bien, je crois qu'on disait à Russell que de faire attention parce que je crois que ses pneus surchauffent. Il y avait de la surchauffe de pneus.
Oui, on lui a dit un message très brillant. On lui a dit ne te bats pas pour du positionnement en piste, c'est le résultat final qui compte. C'est essentiellement ce qu'on lui a dit parce qu'il voulait essayer de dépasser Perez. Puis on dit non, garde ta position, puis on va essayer de. On va jouer sur d'autres choses. Contrairement à. Sans doute Fernando Alonso ou des pilotes qu'on a vus en deuxième moitié de tableau qui ont essayé de jouer davantage la position, puis finalement que ça n'a pas payé.
Ouais, donc je crois que Mercedes est en train de évidemment jouer le long jeu. On ne veut pas prendre de risques inutiles. Alors, je crois que c'était un bon message de la part de l'ingénieur de piste de George Russell. Si oui, c'est vrai qu'il y a eu des problèmes de surchauffe, je peux comprendre. Ben, est-ce que je peux dire, on peut comprendre Lewis Hamilton d'être un peu frustré, mais je crois qu'il ne devrait pas l'être en principe, parce que troisième et quatrième, avec une meilleure course comme on l'a vu, c'était tout simplement, c'était tout simplement bon. Donc, Mercedes, déjà en trois courses, a deux podiums, donc surtout avec la voiture qu'elle.
Du moment que cette voiture sera plus fiable, qu'ils auront réglé les problèmes, notamment le marsouinage, cette voiture-là va être très dominante.
Oh oui. Je crois que c'est juste. Je pense qu'on est plusieurs à se dire que ce n'est qu'une question de temps avant que
Oui.
Mercedes règle leurs problèmes. Si ça continue à stagner, là, il y a un énorme problème. Et je crois qu'on pourrait dire que Mercedes est une voiture de milieu de tableau. Ce que j'aime, ce qu'on n'avait pas entendu depuis 2013, si on peut dire. 2012-2013.
Exact. 2012-2013, oui.
On va parler d'Alex Albon. Quelle performance! Samedi matin, on se réveille. Ah, oh, il est disqualifié parce qu'il n'a pas donné assez d'essence à la FIA pour. Évidemment, il s'est arrêté en bordure de piste après la Q1. Donc, ça donnait un certain indice aussi. Mais, et en plus décopé, je dis bien entre guillemets, sa pénalité de 3 places pour son accrochage avec Lance Stroll à Jeddah, qui aurait eu aucun effet au final. Mais sa stratégie, il a été clean, il a été capable de rester à un certain rythme avec des bons tours, surtout avec la gomme dure, et de s'arrêter dans le dernier tour alors que on voyait Charles Leclerc franchir la ligne d'arrivée. Il arrive, il va. Albon sort des puits. Vraiment, il nous a fait à Sébastien Vettel au Grand Prix d'Italie 2010, là. C'était
Exact.
magnifique.
Je m'attendais pas à ce que la stratégie paye. Je me disais, on voyait bien qu'elle allait s'arrêter au dernier tour, mais avec les temps des différents pilotes, les écarts, on se disait, ouais, il va être 11e, 12e, ça va pas marcher. Puis finalement, hey, 10e place. L'équipe doit tenter des stratégies vraiment hors. Vraiment une. On savait que la dure était très dure, donc elle pouvait durer le Grand Prix parce que c'était la C5, c'était pas la C4, donc hors séquence, comme j'ai mentionné plus tôt. À partir de là, on espère un peu des voitures de sécurité, même virtuelles, ou des voitures de sécurité en présentiel, là, directement voir la voiture de sécurité sur la piste. À partir de là, on gagne des tours, on gagne du temps, on économise les pneus, on peut tenter vraiment cette espèce de Hail Mary, où on s'arrête dans les 5, 10 derniers tours et espérer d'aller chercher une bonne position. Pour Alex Albon, ça a tout à fait marché, tant mieux pour lui, c'est un point. C'est très réjouissant pour l'équipe. C'est très difficile pour Nicolas Latifi surtout.
Ouais, et surtout que Latifi, à un certain moment, était devant Albon. Alors, pendant une bonne. Ben, pendant, je te dirais, le premier tiers de la
Le
course.
premier tiers, oui.
Mais ensuite, Albon a juste été capable de faire une bonne gestion. Et puis, je me dis même, je crois que pendant son temps avec Red Bull l'année dernière, il a appris de Sergio Pérez. Donc. Je crois qu'il y a un peu de l'apprentissage de Checo derrière ce beau relais de 57 tours. Alors, vraiment chapeau à Albon. Et ça fait la transition vers la seule écurie qui, après trois courses, n'a toujours pas marqué de points. Aston Martin. Aïe, aïe, aïe. Par où commencer, Jean-Sébastien?
Cette voiture est toujours aussi belle.
Ouais. Ouais, je pense que. Je pense.
Heureusement qu'elle est belle.
Ouais, heureusement qu'elle est belle, mais gosh, qu'elle est
Non, c'est ça.
inconduisible.
Elle est conduisible, elle est dangereuse. Sébastien Vettel, je pense, l'a assez bien vécu en fin de semaine. C'est une voiture qui casse, une voiture qui est difficile à manœuvrer parce qu'on peut perdre la voiture dans des virages relativement à basse vitesse, comme le virage numéro 4 à Melbourne où il a tout simplement perdu. Donc, sans doute un sur-régime des roues arrière qui fait en sorte qu'il perd le contrôle parce que la façon dont il avait négocié le virage semblait correcte. Il n'y avait pas particulièrement de problème, il me semble. Lance Stroll qui prend deux pénalités pendant la fin de semaine aurait peut-être pu marquer des points, mais je pense a surutilisé ses pneus, notamment vers la fin de la course, et tout simplement juste reculé comme l'a fait Fernando Alonso. À un moment donné, les pneus sont juste morts, donc peut-être un petit peu trop poussé sur le champignon. Mais à part ça, ça manque de vitesse, c'est pas fiable. Le moteur, on sait que le moteur a des problèmes là, mais ça c'est pas de leur faute. Mais ça va être long, ça va être une saison qui va être très très longue.
Oh, mais je dois dire cependant que la stratégie de faire arrêter Lance Stroll deux fois,
Ça, c'était brillant. Ça aurait pu
oui,
marcher. Au début de la
ça aurait
course, je me suis dit, ah, ça, c'est intéressant. Ça risque de marcher. Puis ça a failli marcher.
ça a failli marcher effectivement,
Si ça avait
Mathieu.
marché, Lance Stroll aurait pu être mon pilote du jour.
Oui, et je pense qu'il aurait pu marquer un point. Mais il aurait pu marquer un point legit. Mais écoute, il s'est un peu sabordé. Je dois dire, j'ai. Il s'est un peu sabordé avec ce zigzag sur Bottas.
Ce zigzag sur Bottas, il s'est saboté. Il s'est également saboté en essayant de jouer les positions sur la piste et non le classement final, contrairement à ce que George Russell a fait.
Oui. Mais disons aussi qu'il a essayé de défendre. C'est sûr qu'il essaie de défendre sa position face à des voitures qui sont naturellement plus rapides.
Oui, il
Donc,
faut pas le faire, ça sert à rien.
c'est ça. Mais en même temps, c'était presque un coup de circuit qu'il a fait. Mais je sais pas. Je vais être très honnête avec toi, Jean-Sébastien. J'ai vraiment du mal avec. J'ai vraiment du mal avec le début de saison de Lance Stroll. Oui, la voiture, elle est belle, mais elle n'est pas rapide.
Non, il y a plein de problèmes sur cette voiture-là. Et peut-être que Lance Stroll est un problème aussi pour cette voiture.
Peut-être. Je pense que ça peut. On va voir si c'est encore trop tôt, mais j'ai peur qu'il devienne un problème aussi. Parce que ce zag, sans ça, il aurait pu avoir un meilleur résultat. Ben, le résultat n'aurait pas changé, on va se le dire. Le résultat n'aurait pas changé. Il se serait fait bouffer par la voiture. Mais il s'est mis en position. Ben, déjà, le fait que sa qualification, son accrochage avec Nicolas Latifi, qui était extrêmement embarrassant, l'a mis dans une position assez difficile déjà au départ, sachant qu'il est capable de gagner des positions. Mais.
Oui, il est très bon pour faire un premier tour, ça on le sait, mais à partir de la 20e position, t'as beau remonter quelques positions, tu restes quand même très loin des points. Mais à partir de la qualification, tout le reste s'est mal déroulé.
Oui,
Mais même là, il n'y avait pas le rythme en qualification, donc ça n'a rien changé qu'il y ait eu un accident ou pas.
ouais, au moins. Mais tu
Parce
sais,
que
au
son
moins.
accident a aidé Sébastien Vettel à pouvoir aller faire un tour parce que la voiture n'était pas prête.
Alors, je disais avant de perdre ma connexion Internet, traditions, comme dirait Valtteri Bottas. Aston Martin, je disais, c'est vraiment un Toyota des temps modernes parce que l'équipe a beaucoup d'argent. Comme Toyota, ils étaient capables de dépenser quand même d'argent sur un programme Formule 1. Mais présentement, les résultats ne sont pas là. Oui, il y a eu un podium de la part de Sébastien Vettel, mais cette voiture, elle est mid. Elle est mid. Comme ça se peut pas. Je comprends, c'est la deuxième saison de Aston Martin 2.0, Mais quand tu as Martin Whitmore, t'es allé chercher Mike Crack, t'as Sébastien Vettel dans tes rangs. Quand ça va bien, tu as Lance Stroll qui est capable de du meilleur. Et t'as plein d'autres ingénieurs qui t'es allé chercher dans. Et t'as Dave Fallows qui est déjà arrivé depuis le début du mois officiellement, qui était le chef aérodynamique chez Red Bull, qui est dans ton équipe et que tu n'offres pas les performances. Ta voiture est même pire que l'ancienne génération. Il y a un sérieux problème parce que je trouve que là, la question va se poser. Quel est le problème chez Aston Martin? Est-ce que c'est la voiture en elle-même? Est-ce que c'est la gestion aussi? Est-ce que le départ de Otmar Szafnauer est précurseur d'un problème chez Aston Martin? Parce que j'ai du mal à croire que Szafnauer est parti d'Alpine parce que il a eu une offre bien meilleure avec Alpine. Je crois qu'il y a et même que des BWT partent aussi. De surcroît aussi, là, je crois qu'il y a quelque chose. Il y a quelque chose en matière de gestion qui ne fonctionne pas.
Oui, il y a quelque chose de beaucoup plus profond que la simple voiture. L'addition des différents problèmes, comme tu as évoqué, la voiture. Et pourtant, ils ont les ressources, ils ont plusieurs qualités. Ils ont un super pilote, 4 fois champion du monde. C'est pas arrivé par hasard. Ils sont allés chercher des super ingénieurs, des super patrons. Mais on additionne tous ces éléments-là. Does not compute. Il y a vraiment des problèmes beaucoup plus profonds que simplement la voiture. Il doit y avoir une crise à l'interne. Il doit y avoir une crise de confiance. Il y a différents problèmes. Ça semble être très compliqué, très lourd. Et on n'est pas sorti du bois chez Aston Martin. Mais ça reste toujours la plus belle voiture.
Et effectivement. Et non seulement c'est une belle voiture, mais aussi, je dois dire, j'ai... Pardon. Entre le Grand Prix d'Arabie Saoudite et de... Entre le Grand Prix d'Arabie Saoudite et de... Comment ça s'appelle? D'Australie, il y avait des rumeurs. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas. Mais il y a eu des rumeurs comme quoi, bon, Lawrence Stroll était en beau fusil, pour dire en colère, après les mauvais résultats en qualification, il l'aurait engueulé. Évidemment, ce sont des si, ce sont des rumeurs, mais... Si c'est vrai qu'apparemment il y a un climat de terreur, ben pas de terreur, mais un climat malsain, et ce qui expliquerait aussi peut-être une différence d'opinion entre Otmar Szafnauer et peut-être il y a certainement un impact aussi, parce que je crois pas que Martin Whitmarsh arrive chez Aston Martin embauché en 2020, même s'il est en retrait, mais il regarde quand même ce qui se fait dans l'écurie de Formule 1.
Il arrive sans doute pas avec le coudé franche, et on ne gère pas une entreprise comme on gère une équipe de Formule 1. Il faut laisser ceux qui sont bons là-dedans faire leur job, et peut-être que leur donne trop son mot à dire.
Peut-être, effectivement.
Ce qui peut se comprendre, parce que Lawrence Stroll, c'est lui qui avait beaucoup d'argent. Mais il faut laisser aller son projet personnel et le confier aux personnes responsables.
Mm-hmm. Mais en même temps, je me dis, c'est la troisième course de la saison. La saison est longue. L'équipe a le temps de se développer, de développer la voiture. Et peut-être qu'il y aura... qu'avec l'arrivée officielle de Dave Fallows depuis... le début du mois, peut-être qu'il pourrait avoir un impact sur l'aspect aérodynamique aussi. Mais cette voiture, elle est belle quand même. Ça, on ne cessera de le rappeler. Donc, ouais. Mais en tout cas, c'est vraiment mal parti. Sébastien Vettel, on peut l'excuser parce que c'est sa première course de la saison. Puis il arrive sur un circuit qui est totalement différent de Bahreïn. Mais ouais. c'est complètement difficile pour le pilote allemand et pour Lance Stroll aussi. C'est un week-end à oublier, mais une course relativement bonne où il a été capable de se tenir tranquille jusqu'à ce que les voitures derrière le rattrapent, évidemment avec des pneus beaucoup plus usés. Ouais, mais en tout cas, Aston Martin a du travail à faire. Donc, je vais vous donner le résultat, le classement après trois courses. Donc, Charles Leclerc mène avec 71 points. C'est 34 de plus que...
34, George... bon.
Ouais, c'est ça, c'est 34 de plus que George Russell, mais c'est quand même...
C'est vrai.
C'est une grosse avance, quand même. Carlos Sainz est troisième avec 33. Il reste avec 33. Sergio Perez est devant Lewis Hamilton et Max Verstappen après trois courses. 30 points pour Perez, 28 pour Hamilton et 20 et les points de la victoire pour Max Verstappen, 25. Esteban Ocon est septième avec 20 points. Lando Norris, huitième. Et à égalité... Kevin Magnussen et Valtteri Bottas. Donc, Magnussen, oui, une course à oublier, mais au moins ils étaient en mesure de se battre pour des positions. Ça, au moins, c'est une bonne nouvelle. Au championnat des constructeurs, Ferrari a 104 points. Mercedes est deuxième avec 65 points, ce qui n'est pas si mal au final. Red Bull est troisième avec 55 points. McLaren, quatrième avec 24. Alpine, cinquième avec 22 points. Alfa Romeo, sixième. Et mention honorable à Zhou Guanyu, qui a fini onzième encore une fois. Donc, assez performant à ses trois premières courses. J'ai vraiment espoir pour lui.
Oui, il n'est pas juste là pour l'argent, visiblement.
Non, il a du talent. Il a du talent, et surtout dans une voiture qui est capable du meilleur. Haas, 7e. Alpha Tauri, 8e. Donc, 12 pour Haas.
C'est pas le début de saison rêvé. C'est pas le début de saison rêvé pour Alpha Tauri.
Alpha Tauri, là, c'est avec Aston Martin ma déception cette saison.
Oh, oui, ils ont fait une course plus qu'anonyme aujourd'hui et ça se reflète au classement général.
Effectivement. Et en plus, tu vois Gasly à 6 points. 4... Moi, au moins, c'est relativement partagé. 6 pour Gasly, 4 pour Tsunoda, au moins.
Ouais, c'est Gasly qui est en toutes ses performances habituelles.
Exactement. Donc, au moins, c'est ce qui sauve au moins Alpha Tauri. Williams a inscrit son premier point de la saison grâce à la fabuleuse stratégie d'Alex Albon. Et Aston Martin est 10e. Important, Vettel n'est toujours pas classé. Il n'est pas classé, évidemment, avec son abandon. Donc, il va falloir qu'il termine la course pour qu'il le soit. Donc, c'est ce qui complète notre émission d'après-course du Grand Prix d'Australie. On va se retrouver ce jeudi pour la balado du bulletin GP, l'original. Et nous, on se retrouve dans deux semaines pour le Grand Prix d'Émilie-Romagne à Imola. Puis Jean-Sébastien, devine quoi?
F1 Sprint?
Oui! Donc, F1 Sprint, j'ai tellement hâte sur un circuit où les dépassements sont relativement difficiles. Yeah! Ça va être très beau à voir. J'ai hâte de voir le produit final, surtout avec ces nouvelles voitures qui sont beaucoup plus grosses. Ouais, mais au moins, Imola est là pour les prochaines années. C'est un très beau circuit, je dois dire. Bref, vous pouvez nous suivre sur Facebook, Twitter et Instagram @lebulletingGP en un seul mot. On est aussi disponible sur toutes vos plateformes de podcast préférées, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Stitch et autres, où le bulletin GP est disponible. Et évidemment, vous pouvez rejoindre le groupe Facebook F1 Québec sur Facebook. On va mettre le lien sur la page de la balado sur vos plateformes de podcast préférées. Jean-Sébastien, un énorme merci d'avoir été là.
C'est un réel plaisir. On se voit là très bientôt, en fait.
Oui, effectivement. Donc, on se revoit jeudi pour l'émission originale du bulletin GP. Et dans 2 semaines pour l'après-course du Grand Prix d'Émilie-Romagne à Imola. Mon nom est Abdou Sall, on continue toujours de rouler avec le bulletin GP et surtout, prenez soin de vous s'il vous plaît. Salut tout le monde!